On va essayer de permettre à tout le monde qui a envie de s'exprimer de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une question. Ça peut être simplement un commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Il n'y a personne qui vous a demandé ça. Au contraire, on veut avoir votre vrai de vrai avis pour que nous, on se gouverne en conséquence. Qui a envie de partir le bal? Merci de vous manifester. Je vais aller vous voir. Je vais vous tendre le micro. Vous allez pouvoir vous exprimer.
Alors, c'est comme ça que s'est ouverte la période des questions et des commentaires hier soir dans cette soirée publique en marge d'un projet d'un éventuel traversier, une navette fluviale entre Havre-Saint-Pierre, Lille et la région de Gaspé par Rivière-au-Renard. La voix que vous avez entendue est celle de Stéphane Gasse, un ancien animateur de radio. Stéphane et moi avons travaillé dans des stations en commun, mais pas en même temps. Il est originaire de Saint-Anne-des-Monts. Il travaille pour la firme nationale qui gère les communications de ce projet-là. Et puis, il incarnait le modérateur hier, celui qui se promenait avec le micro dans la foule et en même temps pouvait, poser des questions ou demander un commentaire supplémentaire. Les gens se sont exprimés avec aisance et de nombreuses personnes l'ont fait hier soir. Monsieur Nicolas Desjardins, ancien agent de la faune, se souvient de l'époque où il y avait un traversier qui menait les gens vers l'île et du comportement des visiteurs.
Les pourvoyeurs avaient énormément investi d'argent en prévision de ces gens-là en réalisant des terrains de camping à différents endroits sur l'île jusqu'à l'extrémité est de l'île, qui avait des terrains de camping aménagés. Les différents pourvoyeurs, CEPAC Anticosti, Lac-Geneviève, la municipalité avait également, mettons, un terrain de camping ici. Plusieurs de ces gens-là qui arrivaient quotidiennement s'en allaient dans l'île sans réservation. Ils allaient se camper n'importe où. On avait, comme agent de protection de la faune, on avait des surprises à tous les jours, quand autant de soir, de nuit que de jour. On trouvait des gens, mettons, partout, qui pêchaient sans l'autorisation, sans les moyens adéquats. Si on doit pêcher à la mouche, les gens pêchaient avec des leurres, les gens ne respectaient pas les limites, les gens sortaient le lendemain. Par la suite, parce que le bateau, il venait de façon quotidienne. Il ressortait le lendemain avec des quantités de poissons, des fois avec des renards, tu sais, pas nécessairement au mois de novembre, tu sais, pas nécessairement dans la meilleure période, avec du homard, du chevreuil, tu sais, là, c'était free for all tout le monde. La municipalité avait voté un règlement à ce moment-là qui devait encadrer ces personnes-là. Il y avait l'inspecteur municipal qui pouvait le faire appliquer, les agents de la Sûreté du Québec, les agents de protection de la faune. Moi, mon boss, il m'avait dit « t'occupe pas de ça ». Sûreté du Québec, bien écoute, il venait deux semaines par année, puis il visitait un peu comme vous, là, tu sais, là. Il venait visiter l'île au lieu de, des fois, d'interagir, à moins qu'il y avait une bataille, admettons, là, durant qu'il était ici, admettons, ou qu'il était appelé pour ça, tu sais. Mais de façon générale, c'était pas eux qui intervenaient pour ça. Des situations comme ça, on a vécu pendant 3 ans. Au détriment de la faune, au détriment des investissements que les gens avaient faits au niveau des pourvoyeurs. L'apport économique était très, très faible. C'est sûr que si les gens devaient, pour une raison ou une autre, admettons, consommer de l'essence en quantité suffisante, là, ils faisaient le plein ou allaient acheter des barres de chocolat ou 2-3 bouteilles d'eau, mais de façon générale, les gens, en raison du court laps de temps qu'ils venaient ici, au niveau économique, ça n'avait pas une signification importante pour le milieu, là.
Cette notion d'abus, cette notion du hors-contrôle à l'île, parce qu'on n'a pas les structures pour contrôler les visiteurs et leur comportement, c'est revenu souvent dans la soirée. Le territoire est très grand, on n'a pas les ressources pour le surveiller, et les gens qui viennent ici sentent une grande liberté. Ils ne sont pas chez eux, il n'y a pas de surveillance, le territoire est vaste, il est stimulant, et le comportement n'est pas adéquat, sans plus générer de retombées économiques qui en valent la peine. Plusieurs fois, la question de la sécurité versus les ressources de l'île, sont revenues dans les discussions hier soir. Une véritable préoccupation pour les gens qui ont assisté à cette soirée. Monsieur Daniel Fréchette, résident.
C'est un patrimoine faunique et paléontologique d'une grande vulnérabilité. J'ai entendu ce que Nicolas a dit tantôt, puis je vais même vous rajouter une anecdote qui est arrivée. Pendant le Nordique Brasseur, il y a un gars qui s'est fait pogner avec 46 saumons à la sortie. Il ne s'est pas fait pogner à l'île. On n'avait pas les ressources pour le pogner. Il s'est fait pogner à l'autre bout. On n'a pas les contrôles pour ça. Ils peuvent aller où ils veulent. On a des rivières qui sont fermées, donc elles ne sont pas surveillées. Mais il y a un terme qui est revenu souvent puis qui m'agace puis qui me donne des crampes d'estomac. Comme quoi vous vous référez à Anticosti comme étant un endroit enclavé. Anticosti n'est pas enclavé. Anticosti est enclavé pour la Côte-Nord, il est enclavé pour la Gaspésie, mais n'est pas enclavé pour les citoyens d'Anticosti. Ici, on est protégé. On peut utiliser d'autres termes, là. On n'est pas enclavé. Il y a des moyens d'entrer et de sortir d'ici. Anticosti n'est pas inaccessible. Anticosti est accessible. Premièrement, on a les programmes PAR du gouvernement par avion. On a le Bella des Gagnés qui permet aux gens, autant de la Côte-Nord que de différentes destinations, incluant la Gaspésie, parce que Rimouski dit que ce n'est pas inaccessible. Maintenant, avec le Bella, ce qui est pratique, c'est qu'on contrôle les entrées. Ce n'est pas l'île qui le fait. C'est le groupe des Gagnés qui le fait. Tout le monde est identifié, puis les véhicules sont identifiés. À la sortie d'ici, on n'a pas 200 personnes qui vont être rentrées, dont on ignore l'identité, qui ont peut-être, puis on n'a pas le droit d'ouvrir leur boîte de camion s'ils sont fermés, qui est peut-être rempli de chevreuils, puis de renards, puis de saumons, puis avec le Bella, ça se passe pas comme ça. Il y a quand même un certain niveau. C'est pas contrôlé autant qu'on voudrait, mais c'est quand même, on a une certaine sécurité de ce côté-là. Vous avez un intérêt d'être lié à la Côte-Nord. La Côte-Nord a un intérêt d'être lié à la Gaspésie. Mais est-ce qu'Anticosti a un intérêt à être relié d'une façon non contrôlée et d'être envahi par des véhicules, par des gens pour lesquels, déjà aujourd'hui, à Lille, on a un problème majeur de logement? On va les envoyer où? Dans un terrain de camping? Les risques d'incendie, parfois, là, c'est « through the roof » ici. Présentement, on est épargné, ça va bien, on est content. Le vol, le vandalisme, la drogue, puis tout ça, c'est toutes des choses qu'on a vues par le passé et qui, ça va juste donner des portes plus faciles. Anticosti est vulnérable à bien des niveaux. On a déjà des pocheux localement ici, on va essayer de ne pas en avoir d'autres. C'est trop facile par le bateau.
Je signale que M. Fréchette est un ancien policier de la Sûreté du Québec. Et quand on fait allusion dans le reportage aujourd'hui, hier soir, au Nordique Passeur, tout le monde l'appelait le Nordique Brasseur, tellement il était inconfortable de prendre ce bateau à cette époque où il y avait un traversier ici menant vers l'île. Une notion qui est ressortie hier soir, c'est qu'on ne cherche pas le tourisme de masse, représenté par exemple par 100 ou 200 personnes qui peuvent descendre quotidiennement à l'île par un traversier, mais plutôt un tourisme ciblé vers, par exemple, la chasse, la pêche à la limite, mais aussi des gens qui ont à cœur, disons, la biodiversité et qui viennent ici de d'autres moyens que les moyens envahissants que pourrait constituer le débarquement de 100 ou 200 personnes par jour. Gaétan Laprise.
Est-ce que c'est vraiment à part du tourisme de la Côte-Nord ou de la Gaspésie? C'est-à-dire qu'ici, toute la capacité d'hébergement n'est pas dans le village, est sur l'île, dans les pavillons, dans les camps. Fait ici, il y a un village. Ils s'en vont sur l'île. S'ils sont autonomes, comme les gens qui traversent en bateau avec tout leur kit, ça fait une clientèle qui est, à peu près zéro retombée économique et beaucoup de casse-tête. En 94, je pense, j'étais sur le conseil de la pourvoirie de la Geneviève. Je n'ai pas une grosse mémoire, là. Mais c'est un casse-tête. Qu'est-ce qu'on va faire? La peur des feux de forêt, des patois sauvages, du braconnage, bien entendu. Là, quand tu vois les rivières ici, là, c'est comme les rivières de la Gaspésie, mais en plus petit. Ça fait que dans ça, des pets d'eau, quand il y a 25 saumons et que l'eau est cristalline, encore plus claire que celle de Bonaventure, on comprend un petit peu le danger. Fait que la clientèle ici, Anticosti ne vit pratiquement que de tourisme, les 4-5 000 chasseurs qui viennent l'automne, ce qui fait que l'offre touristique à Anticosti, c'est du milieu et du haut de gamme. C'est sûr que tout le monde, « Hey, je pourrais traverser Anticosti avec mon char. » Bon, on a vu débarquer des Transams, on a vu débarquer du monde avec un chien. Puis là, en plus, si tu fais venir pas la bonne clientèle qui vient chez vous, ben ils partent des fois déçus, parce que là, je me souviens, les personnes avec un VR à 75 000 $, tu dis, non, on ne va pas à Pointe-Sud-Ouest, là, tu vas te le scraper. Eh oui, mais ils étaient frustrés parce qu'ils disaient, ben non, ils ne veulent pas qu'on aille. Ben non, mais comme tu as vu le chemin de Pointe-Sud-Ouest, tu ne vas pas là avec ça. Mais c'était ça. Puis si tu restes en rack quelque part, ça va être quelque chose à sortir, là. C'est C'est les gens qui viennent ici sont du monde sympathique et le fun, mais si c'est pas la bonne clientèle, ça marche pas pour eux autres, ça marche pas pour nous autres non plus. On est dans un créneau de tourisme bien particulier. Je viens de la Côte-Nord puis la Gaspésie, c'est pas la même chose. À Lille, on n'est pas contre un lien, mais pas pour non plus, tant qu'à ça. J'ai essayé de faire une liste de les avantages, puis les inconvénients, puis il m'a dit des avantages, j'en ai pas trouvé beaucoup. Déjà, des enclavements, retombées économiques. Il y a deux, trois petits marchands qui m'envoient des petites retombées, comme dit Nicolas. Par contre, les inconvénients, ah ben là, en tout cas, des irritants, on va dire, là. Ça, il y en a beaucoup, parce qu'on est dans une situation particulière. Ils consomment pas beaucoup de services. On est dans le tourisme, d'autres, on offre des services. Par contre, il en demande. Et, tu sais, où c'est, je vais vidanger mon VR ou ma rouleur. C'est une clientèle qui peut adapter à nos conditions. Et c'est des clients de dernière minute. Hein, ils arrivent à Rivière-au-Nord ou à Saint-Pierre. Je peux traverser à Lille avec mon char. Wow! Ils n'ont rien réservé ici. Mais ici, tu ne peux pas arriver dans un camp et « Ah, je pourrais-tu avoir une chambre? » Non, non, c'est 3 mois à l'avance que tu réserves ou 6 mois, ça n'existe pas, cela-là. Puis la capacité d'hébergement dans le village a augmenté un peu, mais c'est quand même pas encore énorme, là. Fait que des gens qui repartent déçus de leur expérience pour un site touristique, c'est pas de la bonne pub, ça, de dire « Ah non, le talent du Costi, c'est vraiment plate. » Notre capacité d'accueil est très réduite, puis elle sera jamais très grande, là. C'est pas parce qu'il va y avoir un traversier. 6 mois d'opération, Dégagné faisait 2 mois, parce que déjà, la clientèle touristique rendue en septembre, oui, il y en a maintenant, mais rendue en octobre, il n'y en a plus ben, là. Puis voyager avec des bateaux vides, ça me surprendrait. On a besoin d'avancer, mais des stratégies de développement touristique. Moi, je pense toujours qu'il faut aller chercher la bonne clientèle. Quand la bonne clientèle vient à Anticosti, on va dire comme le Dr Schmidt, ils ont juste une envie, y revenir ou y demeurer. Ça, c'est garanti. Puis c'est effectivement ce qui se passe avec beaucoup de gens. Des gens à transport actif qui débarquent ici avec des vélos, des randonneurs, et qui utilisent des services d'hébergement, de transport et tout. C'est une clientèle comme les chasseurs. Les chasseurs, ils n'arrivent pas avec leur pick-up ici. Là, ils arrivent, ils ont un véhicule, guide, etc. Ça fait le tour.
Bonjour, Bianca Chénard. Moi, je vais vous parler de sécurité. L'île d'Anticosti est grande. Quand les gens arrivent ici avec leur propre véhicule, s'ils tombent en panne, il n'y a pas de service de dépanneur. Donc, il y a des accidents. Donc, il n'y a pas de couverture non plus d'ambulance pour Anticosti. Donc, c'est un réel problème. Donc, si ça arrive à un moment donné sur le territoire de la CEPAC, c'est tout son personnel qui doit libérer certaines personnes pour aller donner des coups de main. Puis, si le véhicule est endommagé, remorquage de véhicule, c'est extrêmement compliqué. Donc, arriver ici, non préparé de façon autonome, c'est pas nécessairement une bonne idée. C'est pas le type de clientèle qui est recherché. Pendant la pandémie, la Gaspésie a subi des assauts de touristes irrespectueux. Ce type de clientèle-là, je suis désolée, mais on n'en veut pas.
Nick Malouin. Moi, je suis né ici. Par contre, j'ai étudié 6-7 ans à cette île. J'ai travaillé une dizaine d'années à Québec. Puis, on a fait le choix de revenir ici, élever nos enfants, tout ça. C'est un choix qu'on a fait. On ne se sent pas enclavé. C'est un choix de vie, puis on aime notre vie comme elle est là présentement. On n'est pas contre le développement, j'ai un commerce. Mais lors du Forum du futur qu'il y a eu il y a quelques années, on parlait beaucoup de tourisme de niche qu'on veut développer et non du tourisme de masse. On n'est pas prêt, on ne sera jamais prêt, puis on ne veut pas être prêt. On ne veut pas changer nos façons de vivre non plus. J'ai tombé sur un article dernièrement. Pendant la COVID, tout le monde s'est garoché en Gaspésie parce que le monde n'avait pas le droit de circuler ailleurs, aller aux États-Unis. Je vous cite M. Côté dans la presse. « C'est le bordel, lance Daniel Côté, le maire de Gaspé. Le territoire a été envahi par une horde de visiteurs qu'on ne reçoit pas habituellement, qui sont débarqués de façon déstructurée, désorganisée, sans réserver et en accaparant le territoire. » Ils sont partout, partout, partout. Puis, ils rajoutent, C'est le dossier le plus lourd que j'ai eu à porter depuis 7 ans que je suis maire, a-t-il continué. C'est ça qu'on veut pas vivre.
Alors, vous avez entendu une succession de commentaires. Je limite le temps de ces commentaires parce que la séance a duré plus de 2 heures. Donc, je ne peux pas présenter l'entièreté des commentaires. Mais vous avez vraiment l'essentiel du pouls des insulaires présents hier. Et comme je dis, ils étaient pas loin d'une soixantaine. La semaine dernière, dans l'entrevue réalisée avec Monsieur le préfet désigné, Sébastien Lécuyer, je disais à Sébastien, la situation ici, c'est que le traversier n'est pas réclamé par les insulaires. Ce qu'ils aimeraient, c'est un meilleur service aérien. Et en gros, c'est sorti hier. Nonobstant le fait qu'on n'est pas structuré pour recevoir autant de gens, on n'a pas la façon, la méthode, le personnel de contrôler les allées et venues sur l'île pour être certain qu'on ne va pas abîmer notre île, que ce soit au niveau, par exemple, de la faune, de la flore, ou même aussi en marge de la Société du patrimoine mondial Anticosti, de ne pas aussi se voir abîmer les falaises et de se faire voler des fossiles comme on l'a vu dans le passé. Au-delà de ça, les gens ne se sentent pas enclavés ici, sont bien ici et c'est une qualité de vie que les gens ne veulent pas voir perturbée par une abondance de touristes soudainement. Alors, c'est le message qui a été vraiment envoyé hier. L'attitude de nos visiteurs était d'ouverture, vraiment. On peut d'abord les remercier d'être venus. Ils n'ont pas tenté de nous enfoncer leur projet. Ils ont fait un état des lieux de ce que l'étude de faisabilité et de retombées économiques prétendait. Mais après ça, ils ont vraiment ouvert la discussion. Des notes ont été prises pendant toute la soirée. Alors, c'est l'essentiel de ce qui est ressorti comme message hier. Et si je suis le promoteur, j'ai reçu ça. Je pense que ça a été une grande surprise depuis une semaine pour les promoteurs de se rendre compte à quel point le projet n'était pas désiré ici. Et finalement, au bout de cette surprise-là, bien, ils se sont rendus compte finalement qu'il fallait écouter les anticossiens et ajuster le projet par la suite. Ça veut dire quoi, ajuster le projet par la suite? Ça veut dire que s'il devait passer ici le traversier, encore faut-il qu'il soit désiré, ce qui ne semble pas être le cas pour tout de suite, mais ça ne peut pas se faire avant de très, très nombreuses années. Et moi, quand j'ai posé la question au promoteur, parce que votre échéancier, vous le voyez quand, ce lien fluvial, fonctionnel, à la condition que le gouvernement veuille bien investir, évidemment. Et puis, la directrice du port d'Havre-Saint-Pierre, laisse entendre 6 ans, 7 ans peut-être. Alors, voilà le scénario, mais si ça devait se faire, ce lien fluvial, ce sera peut-être simplement d'Havre-Saint-Pierre à Rivière-Ournard. C'était le résumé d'une soirée fort utile et très intéressante et bien courue également par les insulaires hier soir au centre municipal communautaire. Ce reportage a été réalisé grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.